Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons faire un épisode sur les différents types de bug bounty avec Yann Filia.
Bonjour.
Étienne Capgras de la société Weston également, comme Yann. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Renaud Lifschitz de Bounty Factory.
Bonjour.
Plutôt qui représente Bounty Factory.
Oui, c'est ça, Renaud. Plutôt ça.
Et pour discuter avec eux, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Hervé Schauer.
Bonjour.
Vladimir Collat.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Hulloa. Alors, nous avions déjà réalisé un épisode sur les bug bounty, mais on va revenir quand même un petit peu sur les termes génériques, au moins. Alors, qu'est-ce qu'un bug bounty ?
Bon, pour faire simple, en gros, c'est pour le fait pour une entreprise de proposer une prime lorsque quelqu'un lui remonte une vulnérabilité sur un de ses produits, services ou applications. Et suivant les cas, ça peut demander à ce que le chercheur, en gros, s'enregistre au préalable. Version très courte.
Alors, les prix, ça peut être de l'argent ou ça peut être simplement un t-shirt ou une inscription sur le site des contributeurs, le Hall of Fame, je sais pas comment on traduit ça, le tableau d'honneur en français.
Ouais, c'est ça, c'est une reconnaissance finalement, quelle que soit la reconnaissance, qu'elle soit pécuniaire ou alors des goodies, etc.
Alors, ce qui nous fait faire cette émission aujourd'hui, c'est que des entreprises comme Weston, par exemple, se mettent à faire du bug bounty. Alors, est-ce qu'on peut déjà expliquer quels sont les différents types de bug bounty et puis ensuite essayer d'expliquer ce qui différencie votre démarche de celle des autres sociétés qui font du bug bounty ?
Étienne ?
Bah, du coup, typiquement, nous, ce qu'on retient des différents types de bug bounty, on va avoir l'original, on va dire, avec Netscape en 95 sur des bug bounty en propre, où l'entreprise va vouloir effectivement remercier des enthousiastes pour leur contribution à l'amélioration de leur produit, qui effectivement de plus en plus porté par une entreprise comme Google, Microsoft, Facebook ou autres, des entreprises qui vont elles-mêmes porter leur propre programme vis-à-vis de la communauté sécurité. On a également au fil des années des bug bounty via des intermédiaires qui sont apparus, donc type AccorOne ou également Yogosha ou Bounty Factory qu'on évoquait tout à l'heure, plutôt côté européen notamment, où là pour notamment faciliter le travail de la gestion de ces programmes qui est assez complexe et assez lourd pour les entreprises, du coup on va avoir des intermédiaires qui vont apparaître pour délester une partie de la complexité du sujet. Avec toujours cette même logique de rémunération du chasseur de failles à la faille trouvée.
Oui, donc il y a aussi une différence entre le client final, on va dire, qui crée son propre bounty et qui rémunère pour les failles dans ses produits directement, et les intermédiaires qui, en fait, se chargent de mettre en relation avec des gens qui cherchent à faire tester leur service et des freelance ou des consultants, des gens sélectionnés qui vont aller faire du test sur ces services-là. Et en fait,
il y a les intermédiaires effectivement qui vont faire la mise en relation, mais il y a aussi les intermédiaires qui vont faciliter le travail du client final en enlevant les faux positifs, en enlevant les doublons et en qualifiant proprement les vulnérabilités par criticité, par niveau de risque.
Et finalement, au-delà de ces aspects légaux qu'on vient d'évoquer, où finalement c'est une entreprise qui cherche à se faire auditer par différents types d'auditeurs et via ou pas des intermédiaires, on a aussi des sites qui surfent sur la vague du bug bounty pour mettre en relation des pirates qui ont trouvé des vulnérabilités sur des sites qu'on ne leur avait jamais demandé d'auditer pour éventuellement obtenir une rémunération a posteriori. Mais donc là, ça va s'appeler bug bounty, mais ça reste dans l'illégalité pour autant. Hein.
Mais qui appelle ça bug bounty ?
Les sites en eux-mêmes. Hein. Ils s'appellent.
T'as un exemple de site
Oui, je crois que c'est O. Si je dis pas de bêtises, qui est sur ce principe-là. Plusieurs de nos clients, en fait, nous ont monté des mails via ce site. Ils avaient du coup trouvé, bon, en l'occurrence, c'était du XSS. Ils avaient trouvé du XSS et du coup, ces fameux chercheurs, entre guillemets, par l'intermédiaire de cette passerelle, cette plateforme, ont remonté à nos clients des alertes en disant la petite ligne en bas qui va bien, qui dit merci de récompenser notre travail, trois petits points. Voilà.
Et en proposant des tarifs ou avec
non,
des
non, rien du tout, rien du tout. Rien du tout, il n'y a rien, absolument rien. Il y a juste, voilà, on a travaillé, tout travail mérite salaire, trois petits points. Voilà. C'est vraiment ça, hein. C'est
pour
vraiment du racket.
Faut faire comme Yahoo et envoyer des t-shirts.
Non, mais il faut arrêter, ça c'est du piratage, les enfants. Hein. Nous, on fait des choses légales.
Voilà. Donc, on ne peut pas appeler ça Bug Bounty, mais en dehors de ça, alors quelles sont les grandes familles de Bug Bounty?
Il y a le Bug Bounty public, où tu annonces, voilà, quiconque me pirate récupère ce prix que j'ai défini à l'avance. Après, ça peut être limité dans le temps ou pas, ça peut être un challenge. Par exemple, vous avez un mois pour pirater mon site, ou ça peut être ouvert, illimité. Après, tu as le Bug Bounty semi-public, où tu dois quand même t'enregistrer sur une plateforme pour avoir accès à la liste des sites qui participent, ou au moins pouvoir remonter des bugs, parce que souvent la liste des sites est publique, mais pour remonter des bugs, il faut t'enregistrer. Ensuite, tu as des Bug Bounty un peu plus fermés, où là, tu dois montrer patte blanche, et tu es en fait invité directement à participer, parce que tu es reconnu comme quelqu'un qui a déjà trouvé pas mal de failles. Et après, tu as des Bug Bounty qui sont carrément, enfin, je vais pas dire underground, mais... où tu es invité directement par l'éditeur, ou alors tu traites directement avec la plateforme de Bug Bounty, mais absolument personne ne sait ce que tu audites, dans quelles conditions, etc. Quoi. Enfin, je pense à des trucs comme le Bug Bounty d'Apple, où ils ont sélectionné 10 personnes pour les faire venir sur site là, il n'y a pas longtemps, et leur donner accès à du matériel de test qui n'est pas disponible dans le commerce. Là, c'est vraiment trié sur le volet. Quoi. Tu ne sais même pas combien de failles ont été remontées, combien d'argent a été distribué, etc.
Et donc, alors, le Bug Bounty de Wavestone, ça rentre dans quelle catégorie?
Nous, on va être dans la sollicitation d'auditeurs qui sont salariés de Wavestone. Donc, on est clairement sur du Bug Bounty privé. Et pour aller encore plus loin, on pourrait dire Bug Bounty privé fermé, entre guillemets. On va pas chercher la compétence en dehors de l'entreprise, pour être très clair. Ce qui fait qu'on va solliciter uniquement des auditeurs qui ont une relation de travail stable au sein de l'entreprise, avec un salaire qui arrive, même s'ils ne trouvent pas de vulnérabilité dans le cadre de leurs interventions sur du Bug Bounty, etc.
Et les clients, c'est qui?
Et les clients, alors on a lancé ça début décembre, donc pour le moment on est plus au stade de discussion, on n'a pas encore mené de mission de type Bug Bounty en complément de 'fin, sur notre offre qu'on...
Moi j'avais une question sur les aspects légaux, donc ce sont des auditeurs qui font ce travail là, est-ce qu'ils peuvent travailler en dehors du coup de leur temps de travail sur ces programmes?
Alors sur les programmes autres que ceux qu'on propose nous, malheureusement non, puisque enfin malheureusement, leur contrat de travail en fait finalement leur interdit d'avoir une rémunération sur quelque chose qui pourrait être considéré comme un concurrent de ce qu'ils pourraient faire au sein de Wavestone, mais ça c'est des contrats assez classiques, hein, donc en théorie c'est valable pour n'importe quel pentester qui a un emploi stable dans une société pour laquelle il fait du pentest.
Et pour leur société, donc pour le programme des clients alors?
Alors c'est là où
pareil,
il faut bien
pendant les heures de travail.
Ouais, c'est ça, en fait, il faut bien comprendre la philosophie de notre Bug Bounty. On n'est pas en train de mettre en relation des clients avec nos auditeurs. On est en train de proposer à nos clients une offre où ils vont être facturés en fonction de là ou des failles que nous, on aura remontées. Ensuite, la mobilisation des auditeurs, elle se fait pas à la criée au marché au sein de nos bureaux. On est vraiment dans une logique de staffing comme d'habitude, où on va flécher, on va allouer effectivement du temps officiel aux auditeurs pour qu'ils aient le temps d'aller chercher ces vulnérabilités. Derrière, ce qui va changer, c'est plutôt on va être dans le mode, on est clairement dans le mode Bug Bounty en termes d'expérience client, dans le sens où lui ne va payer que si on trouve des vulnérabilités.
En fait, c'est un audit de sécurité qui, au lieu d'être rémunéré au temps passé, cet audit de sécurité ou ce test d'intrusion est rémunéré en fonction de chaque faille ou vulnérabilité découverte.
Sans pour autant être un audit de sécurité.
Mais si, justement, pour moi, c'est pas un bug bounty du tout, c'est pas le principe du bug bounty, c'est le principe de l'audit de sécurité qui, au lieu d'être rémunéré au temps passé, est rémunéré à la vulnérabilité ou à la faille de sécurité, au résultat.
Pour le coup, il n'y a pas de référentiel. Hein. C'est pas un audit au sens de l'ISO 19011, on est bien sur un test d'intrusion, plus.
Oui, bah, c'est ce que je disais, test d'intrusion, audit applicatif, audit de code, audit de contenu.
Alors, on n'est pas...
On rémunère pas au temps passé, on rémunère en fonction de ce qui a été trouvé au résultat.
Alors, si je peux poser une question, en fait, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que donc les personnes qui travaillent sur le bug bounty, c'est sur du temps où on va leur dire vous avez 10 jours pour faire ça, ou alors est-ce que c'est sur du temps d'intercontrat, ou alors est-ce que c'est quand ils ont envie, quand ils ont le temps. Enfin, je comprends pas comment se fait la répartition du temps des auditeurs, parce que dans ce cas-là, moi je suis auditeur Wavestone. Bah, je passe mon année à chercher et à rien trouver, et je suis quand même rémunéré sans qu'il y ait de gain pour l'entreprise. Je comprends pas trop en fait comment s'organise la répartition du temps.
Gagne l'entreprise laquelle ? Notre client ou Wavestone ?
Non, mais chez vous en fait, donc les auditeurs Wavestone, est-ce que c'est le bug bounty, c'est pour remplir les trous d'intercontrat, ou est-ce que c'est pour remplacer les audits ? Quel est le temps alloué pour faire du bug bounty pour les auditeurs ? Est-ce que c'est des équipes spécifiques ou pas ? C'est ça que j'ai du mal à comprendre.
Alors, il y a plein de questions en une. Donc pour nous, c'est clairement pas un audit de sécurité. On n'est même pas sur des prestations de test d'intrusion, hein, puisque le test d'intrusion, c'est une démarche complètement à part avec nous. On fait une analyse de risque, on va corréler les vulnérabilités, on va vraiment aller avec des scénarios jusqu'au bout, contrairement au bug bounty qui est une recherche de faille. Et du coup, effectivement, on est payé à la faille, mais on reste bien sur de la recherche de faille et uniquement de la recherche de faille. Donc, c'est pas du tout la même approche. Et par rapport à ça, nous, notre objectif, c'est de répondre à une attente de nos clients, où nous ont remonté plusieurs points, et notamment le fait, nous on trouve ça intéressant en complément d'un audit de sécurité pour les aspects challenge des équipes en face et potentiellement une sorte de bonus-malus des équipes projet qui auraient fait un audit de sécurité et pour lequel on voudrait faire une sorte de retest. Et bon, on pourrait partir dans un mode bug bounty où là ils vont être finalement pénalisés si jamais ils n'ont pas corrigé ou s'ils n'ont pas respecté toutes les directives de sécurité, et du coup on serait plus dans ce mode là après pour la question sur les auditeurs, nous on voit ça vraiment comme une mission. Donc, on va effectivement allouer du temps, comme l'a dit Étienne, à des auditeurs. C'est pas les auditeurs qui vont d'eux-mêmes décréter qu'ils veulent faire du bug bounty ou pas. L'objectif, ça va être finalement d'allouer, et notamment cette période d'intercontrat qui peut être parfois un petit peu difficile, notamment en audit ou en audit et en test d'intrusion, on a beaucoup de fluctuations et d'avoir très difficile d'avoir quelque chose de lissé, puisque voilà, l'application qu'on devait tester, elle ne va pas être disponible, donc on va avoir un petit trou. Et ben l'objectif, c'est d'avoir ce bug bounty qui est dans le temps bien plus long qu'un audit de sécurité et de profiter du fait qu'elle soit bien plus longue dans le temps pour justement employer nos auditeurs à faire des tests d'intrusion dans du modèle bug bounty en faisant de l'intercontrat, en allouant quelques jours pour s'assurer que le bug bounty fonctionne, etc. Donc c'est plus dans ce mode-là qu'on voit les choses. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
D'accord. C'est pour rentabiliser, enfin pour faire vraiment simple, c'est pour rentabiliser l'intercontrat, quoi.
Ça a notamment cet aspect-là qui est intéressant pour nous. Mais après, il y a plein d'autres côtés qui sont intéressants. Mais c'est vrai qu'en termes purement pragmatiques, ça va être une des opportunités, effectivement, de boucher les trous, de lisser un petit peu la charge de certains auditeurs. Oui, tout à fait.
Est-ce qu'il n'y a pas du coup une hiérarchie dans les clients ? Parce que pour votre société, c'est quand même préférentiel d'allouer du staffing sur des missions qui sont facturées normalement. Que sur des missions qui vont être facturées à la faille, c'est bien plus intéressant. Donc est-ce qu'il ne va pas y avoir des clients qui vont passer prioritaires à chaque fois qu'il y a un audit normal, et du coup des clients qui seraient en mode bug bounty qui seraient délaissés ?
Non, c'est à nous de nous discipliner sur ça. On n'a aucun intérêt à aller délaisser des clients, parce que derrière, ça va se ressentir ne serait-ce qu'en termes de réputation. Si derrière, on fait appel à nous et puis que finalement, on ne donne pas satisfaction, c'est plié. Donc, il y a déjà ça qui va aider clairement à prioriser. Ensuite, oui, on pourrait dire, c'est plus confortable pour nous de rester dans notre zone de confort. Ça fait 10 ans qu'on fait de sécurité, des tests d'intrusion, etc. C'est rodé, on est une quarantaine à le faire, et globalement, l'intérêt contrat. On a la chance d'être sur un marché sécurité quand même. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi, où c'est assez rare de s'ennuyer en sécurité, en cybersécurité en France à l'heure actuelle. Ce qu'on veut faire en mettant en place ce bug bounty, c'est répondre à des problématiques clients qui disent « moi, j'ai pas forcément, quand j'ai atteint un certain niveau de maturité, j'ai pas forcément envie de lancer un audit complet, de payer un montant fixe alors que j'ai bien fait le travail et du coup, je suis pas vraiment récompensé ». Donc on vient répondre avec ça, à ça, avec cette notion de « vous paierez que si on trouve des choses ». Et ça, en soi, ça nous apporte la satisfaction de tester des nouvelles choses pour répondre à des nouvelles attentes clients. Mais c'est en ce sens qu'on se dit on tente le truc et on verra ce que ça donne. C'est vraiment ça la philosophie qu'il y a derrière. Si on commence à mal gérer la chose, à prioriser plus des clients que d'autres, etc., ça va forcément mal se passer, et en premier pour nous. Donc on n'a aucun intérêt à le faire.
Moi, j'ai pas tout à fait compris, parce qu'à un moment, vous avez parlé de pénalités pour les équipes qui n'avaient pas déployé les correctifs, etc. Mais... est-ce que vous faites du bug bounty en interne, c'est-à-dire est-ce que les équipes d'intégration chez vous vont être auditées après par des auditeurs qui vont leur mettre des bonus malus en fonction des failles qu'ils trouvent, éditez purement des systèmes clients? Et à ce moment-là, comment vous pénalisez des clients qui n'ont pas déployé des correctifs sur des serveurs?
Non, ce qu'on a remarqué, en fait, c'est qu'il y a certains projets dans le cadre de l'intégration de la sécurité dans les projets chez nos clients. Il y a certains projets qui font bien le travail, ils identifient les mesures de sécurité à mettre en œuvre, ils les mettent en œuvre, que ce soit au niveau des développeurs, au niveau des exploitants, au niveau etc. Et finalement, tant qu'il n'y a pas d'attaque, ces équipes-là ne sont pas récompensées, quelque part. Puisque de toute façon, il y a un audit qui va être obligatoire avant mise en production, il faudra le payer du même montant. Donc c'est ce qu'on veut dire. Finalement, une façon de les récompenser, c'est leur dire si vous faites bien le travail, au-delà d'y gagner par le fait que quand vous serez attaqué, vous aurez moins de chances de subir des impacts, vous aurez une récompense immédiate par le fait que vous paierez moins cher votre audit de sécurité, puisqu'il ne vous remontera a priori pas de faille. C'est ça la logique de récompense, un peu de gamification de l'audit et de l'intégration de la sécu dans les projets, avec la petite carotte à la fin qui fait que si on a bien fait le boulot, on a un audit qui coûte moins cher que si on avait mis en place aucune mesure de sécurité. Je ne sais pas si c'est plus clair par rapport à l'explication.
Ah oui, non, c'est clair.
Alors ça, c'est le bénéfice du bug bounty en général.
Exactement.
Voilà. Et après, quelle est la différence dans la démarche qu'a adoptée Wavestone? Alors, quelle est la différence pour le client? Pourquoi il va choisir un bug bounty privé fermé, si on reprend les termes, ou un bug bounty public, en fait? D'un point de vue client, quels sont les avantages?
Alors le premier, et c'est un point qui nous ont notamment remonté, c'est qu'en fait ils savent qui intervient du coup. Ils savent que, comme l'a évoqué Étienne, les auditeurs ont une relation de travail stable avec un contrat, etc. Ils sont en CDI, donc ça c'est le premier point, une de leurs premières inquiétudes qui nous ont remonté quand ils ont eu vent et ils sont intéressés au bug bounty. Je sais pas, Étienne.
Même sur une plateforme de bug bounty, les gens sont pas en CDI, mais ils ont une relation avec la plateforme qui est d'une nature similaire, même s'ils sont indépendants.
Oui, mais pas avec le client en fait directement du coup. Là, nos clients connaissent nos auditeurs, donc puisqu'ils les voient en audit, donc c'est vraiment de ce point de vue-là, ils les connaissent, ils savent comment ils travaillent et où ils travaillent en fait.
Alors effectivement, mais ils se privent aussi d'une partie de d'experts ou d'un large public d'auditeurs qui pourraient être sur des plateformes un peu plus ouvertes. Là, ils restent dans un milieu un peu consanguin, si j'ose dire.
Les meilleurs auditeurs, ils sont plutôt sur des plateformes publiques, hein.
Ça, je veux pas rentrer dans ce débat-là, mais en tout cas, oui, effectivement, complètement, ils se privent de toute la communauté et de tous les chercheurs qui pourraient être amenés à tester leur application web, leur site internet, etc. Oui, complètement. On n'a pas de débat là-dessus.
Juste pour être sûr, les consultants qui peuvent travailler sur le bug bounty sont juste ceux qui ont déjà eu une relation avec le client, ou est-ce que c'est ouvert à tous les auditeurs internes?
C'est ouvert à tous les auditeurs. C'est ouvert à tous nos auditeurs, mais nos auditeurs...
Donc, en fait, le client n'a pas de relation personnelle avec la personne qui va remonter les failles. D'ailleurs, est-ce que le nom du consultant qui a trouvé la faille est communiqué au client, ou est-ce que finalement, c'est juste un... voilà la faille.
Il le sera dans le rapport de synthèse qui sera remis au client, tout à fait. Après,
Oui, donc c'est un bug bounty, mais à la fin, il faut quand même rendre un rapport.
Tout à fait. La note de synthèse liée à la vulnérabilité identifiée, ouais. Sinon c'est difficilement exploitable.
Alors, exploitable, ça c'est tout l'intérêt justement des plateformes d'intermédiation.
Oui, tout à fait.
Comment est-ce que vous avez une sorte d'ombudsman, je ne sais pas comment on prononce, qui va... en gros, est-ce qu'il y a une grille, quoi, combien pour un ICMP timestamp et pour combien pour un XSS persistant, quoi. Comment vous gérez les conflits? Parce que moi, si je passe un ESU sur n'importe quel serveur, il va me dire, SSLV3 est activé, RC4 est autorisé dans les protocoles de chiffrement TLS, donc vous avez une faille. Et ça paye combien? Est-ce que, voilà.
En fait, on a une grille pour ça. On a une grille, en fait, puisqu'on va... Une des autres problématiques, hein, qu'on n'a du coup pas évoquées par rapport à ce que nous remontent nos clients, c'est toutes les problématiques d'achat, etc., qui peuvent être un peu compliquées à gérer, notamment pour les grands groupes. Donc l'idée, c'est d'avoir de passer quand même par une proposition commerciale et d'avoir la proposition commerciale avec une grille et de se mettre d'accord du coup sur un montant en fonction de la catégorisation de la faille. Voilà. Donc typiquement pour une faille XSS, on va avoir une centaine d'euros, pour avoir une injection SQL, on aura plus, etc. C'est ça l'idée. Se mettre d'accord sur un catalogue de failles.
Ça revient un petit peu au prix des astreintes, en fait. Donc, c'est difficile de prédire à l'avance, mais tu arrives quand même à t'arranger pour la facturation des astreintes.
C'est ça.
Sachant qu'en fait, nous, on a été confrontés dans notre réflexion à un problème aussi. C'est finalement un des gros avantages aussi des plateformes qui jouent le rôle d'intermédiaire, c'est de faire le rôle d'arbitre. Quand on a un chercheur de faille qui va remonter une vulnérabilité, qui va dire bah, du coup, elle est très critique, etc. Et le client qui en face veut payer le moins possible potentiellement, il va y avoir des débats. On a cet arbitre au milieu qui va calmer les choses. Donc nous, par rapport à ça, effectivement, on a le risque théorique d'être un peu jugé parti, où on va remonter, et puis on est aussi offreur de tout ça, et donc notamment du montant. Donc le parti qu'on a pris, c'est de se dire tout ce qui est vulnérabilité, on va dire, sujette à débat, on va pas forcément les facturer. Toutes les vulnérabilités du type, on va dire oui, mais c'est pas vraiment une vulnérabilité, c'est pour garantir ma compatibilité avec mes vieux navigateurs, etc. On va les écarter de la discussion, on va le remonter à titre d'information, et on se concentre sur des vraies vulnérabilités, type XSS, SQL, où là, il n'y a pas débat. On va dire, on a récupéré votre base de données, clairement, il n'y a pas débat. Donc c'est sur cet aspect-là où aussi on a réfléchi, parce qu'effectivement, on n'a pas envie de autant dans des audits, si un audité n'est pas d'accord sur un résultat d'audit, il n'y a pas d'enjeu financier derrière, donc il n'est pas tout à fait d'accord, et en général le commanditaire est là pour arbitrer. Autant là, le commanditaire a aussi un intérêt à réduire la vulnérabilité. Donc pour ça, on a aussi fait la grille en conséquence.
Vlad, tu avais une question ?
Ouais, j'ai une question en fait par rapport à vos clients. Est-ce que vous avez une espèce de contrat d'exclusivité avec vos clients sur le bug bounty, ou est-ce qu'ils sont libres de proposer du bug bounty sur d'autres plateformes, par exemple des plateformes publiques ? J'ai une autre question derrière.
Aucune, non, il n'y a pas d'exclusivité, aucune. Au contraire, hein, nous, il n'y a pas de souci pour que. On n'oppose vraiment pas notre bug bounty par rapport à ce que un bug bounty public ou des plateformes. Hein. Pour nous, encore une fois, c'est quelque chose d'assez complémentaire à l'audit de sécurité, avec les mêmes réserves que on pourrait avoir sur les plateformes vis-à-vis de notre offre. En l'occurrence, on pourrait du coup, en termes de maturité du client, etc., qu'on va bien le mettre en garde. Mais après, il y a aucune exclusivité. Il est libre de faire d'ouvrir typiquement chez nous et chez quelqu'un d'autre, ou alors faire un audit chez nous et ensuite faire une de se mettre sur une plateforme. Il n'y a pas de rien du tout de ce type-là.
D'accord. Mais alors, ça veut dire que... Enfin, je me pose une question par rapport à ça et par rapport aux auditeurs qui sont chez vous. C'est que si j'ai donc une entreprise qui est chez vous sur le bug bounty, qui a aussi un bug bounty public et qui offre des primes assez conséquentes sur la découverte des vulnérabilités, vous avez dit tout à l'heure que vous avez donc un contrat de confiance, ou c'est dans le contrat de travail qu'avec les auditeurs, tout ce qui est remonté pendant les temps de travail, donc c'est Wavestone, et puis ils n'ont pas le droit de travailler et de faire de recherches sur leur temps personnel. Mais comment est-ce que vous contrôlez ça? Parce que très honnêtement, supposons une vulnérabilité, je sais pas, à 5 000-10 000 euros, je vois pas un auditeur sur son temps de travail trouver une vulnérabilité à 5 000-10 000 euros et se dire allez, j'en fais cadeau à mon entreprise, Moi, clairement, un truc comme ça, je le file à ma femme et c'est elle qui ouvre un compte sur un bug bounty et malgré le fait qu'elle soit dans le marketing et qui récupère la prime.
Donc, comment est-ce que t'as aucune éthique, Vlad.
Le sujet est vrai aussi vis-à-vis du marché noir, si tu vas par là, en fait. Sur le marché noir, moi, je peux très bien aller revendre une vulnérabilité sur un site que je vais auditer. Donc, c'est pas le sujet du bug bounty ou pas. En fait, nous, on le contrôle par rapport aux vérifications qu'on fait auprès de nos auditeurs et à leur état d'esprit, etc. Je pense que c'est le genre de choses qu'on va rapidement détecter. Et si si on peut le théoriser vis-à-vis du bug bounty maintenant, on peut très bien aussi le théoriser vis-à-vis du marché noir. Et c'est vrai qu'on fasse ou non du bug bounty au sein de l'entreprise.
Ouais, je posais cette question parce que j'avais eu un débat avec Nicolas justement sur l'illusion of control. Hein, Nico, ça te fait rire. Mais justement, quand ça commence à atteindre des sommes assez conséquentes, je sais pas si on peut vraiment contrôler quoi. Et ou même faire confiance.
Bon, tu sais, il y avait une étude qui disait n'importe qui donnerait son mot de passe pour 30 balles, donc define somme importante quoi.
Et après, moi, j'ai une autre question sur les auditeurs. Est-ce qu'ils sont récompensés en interne d'avoir trouvé des vulnérabilités? Alors, je parle pas forcément de primes, mais est-ce qu'il y a une forme de récompense des primes ou autre chose, hein? Des auditeurs qui trouvent beaucoup de vulnérabilités dans les programmes de
bug bounty. Ils ont une place pour Stick.
Est-ce qu'il y a des avantages ou ils sont pas spécialement motivés? Il y a pas de carotte.
C'est plutôt l'inverse en fait. Quand ils trouvent pas et qu'il y a un autre qui a trouvé à leur place, ils sont sur un tableau qui est le tableau de la honte. Mais ça s'arrête là en fait. C'est dans l'autre sens. C'est une émulation par le bas.
Wow.
Du coup, ça fait une bonne ambiance. Une blague. Ça met une bonne ambiance et ils sont tous très contents de travailler chez nous.
Non mais sérieusement, il y a une gamification côté client, mais c'est quoi la gamification côté consultant? Enfin, s'il est en intercontrat, qu'il a le choix de rentrer chez lui à 4 heures ou de rester faire du bug bounty et de rien trouver
ou de
alors,
faire de la recherche.
En intercontrat, en fait, il a malheureusement pas le choix de rentrer à 4 heures. On lui trouvera toujours une occupation. Non, et on n'a pas pensé encore. On voulait pas rentrer dans un jeu justement où il pourrait y avoir des effets pervers et tendre le bâton pour se faire battre avec des. Donc lui, il a plus de temps pour faire du bug bounty, donc c'est normal qu'il ait plus de primes, etc. C'est un jeu un peu malsain, je trouve. Et du coup, l'idée c'était pas de tomber là-dedans.
Et surtout la récompense en fait elle vient ailleurs et ça c'est vrai sur toutes nos missions déjà en fait le parallèle peut être fait avec des missions standards un consultant qui assure la satisfaction de son client qui va plus loin que les objectifs initialement fixés etc ça va être géré de la même manière c'est des récompenses qui vont être faites pas que sur le salaire, ça va être fait aussi sur les responsabilités qu'on va lui confier sur plein d'autres choses, sur effectivement le fait qu'on va lui faire plus confiance sur d'autres choses et potentiellement aller développer des choses, aller à des conférences, les animer, y participer, etc. Enfin, il y a plein de vecteurs de récompense au quotidien et ils ne seront pas forcément que financiers.
Tu es d'accord que
c'est
si
du
cœur,
sujet là.
Non, mais c'est très important parce que c'est la motivation du bug bounty. En fait, la plupart des gens qui travaillent sur des bug bounty publics, à la fin, ils sont invités dans des bug bounty privés, donc c'est la première motivation. Et à la fin, si tu prends celui que représente Renault, il y a un partenariat avec Yasuya qui carrément offre des emplois aux chercheurs freelance. Donc il y a une vraie, il y a un vrai incentive à travailler avec la plateforme. Alors que si t'as une vraie équipe de hackers et que tu le fais jouer à un bug bounty, tu peux être sûr qu'ils vont tricher. Ou alors c'est pas des vrais hackers. Et tricher, ça peut prendre plusieurs formes. Par exemple, tu sais que tel client est notoirement mauvais, qui développe toutes ses applications en PHP. Donc si t'as le choix entre 3 bug bounty, tu vas évidemment te mettre sur celui-là plutôt que sur celui qui fait tout en Angular avec des frameworks modernes et qui a des process de QA bien rodés, quoi. Et si tu fais un prix fixe en disant c'est $100 le XSS ou 100 francs suisses, du coup tout le monde va se mettre sur la proie la plus facile. Enfin, de toute façon, tu peux pas échapper à la gamification côté consultant.
Oui, mais là, en fait, côté Wavestone, en tout cas, le staffing n'est pas à la main de chaque auditeur, justement pour éviter ces effets pervers où on va avoir quelque chose de parallèle qui se fait pour optimiser des retours sur investissement individuels ou autres. On est là pour s'amuser à pentester tel ou tel site, à trouver des failles, etc. Et on n'est pas dans la recherche du gain pécunier individuel.
Donc, on a vu que l'avantage principal du bug bounty privé fermé, c'est pour le client, bien sûr, hein, c'est de mieux maîtriser, on va dire, les auditeurs. Alors, Renaud, quid des avantages du bug bounty, on va dire, traditionnel ?
Bah pour le client, moi, j'y vois un avantage, c'est qu'effectivement, il y a un public d'auditeurs, entre guillemets, de hackers qui va être bien plus grand sur des programmes qui sont un peu moins fermés, donc sur des programmes qui seraient publics ou des publics privés, c'est-à-dire où on sélectionne les meilleurs sur des programmes publics et on offre des programmes un peu plus exclusifs à des bons chercheurs. On leur offre en exclusivité des programmes sur lesquels effectivement ils vont être les premiers, donc soit par réputation, soit par score sur ces plateformes-là. On prive un peu moins de compétences, on va dire, l'audité de cette façon-là, à mon sens.
Moi, je suis quand même curieux de savoir s'il y a une demande des clients. C'est vrai que pour tout ce qui est audit de compliance, je pense, enfin, BCI et DSS, c'est un cas extrême, mais je veux dire, tous les gens qui ont dans leur politique de sécurité, je dois auditer avant de mettre en prod, du coup, ils auditent la veille de mettre en prod, est-ce qu'ils peuvent remplacer cette clause par un bug bounty ou... Parce que, en fait, est-ce que les clients sont demandeurs d'un modèle où ils ont des consultants qui leur testent leur appli n'importe quand sans être prévenus à l'avance ?
Il faut faire attention. Le cas de la conformité est plutôt le contraire. Dans la conformité, tu as besoin de prouver que tu as fait un audit de sécurité, mais tu n'as pas vraiment envie que l'audit de sécurité forcément révèle les failles. Parce que si l'audit de sécurité révèle les failles, tu seras obligé de les corriger parce qu'il les a révélées. Donc justement, les gens qui ont besoin d'audit à des fins strictes de conformité ont plutôt besoin d'audits classiques en temps limité, si possible le plus limité possible, de manière à ce que les auditeurs n'en trouvent pas trop, mais qu'il y ait un rapport suffisamment consistant pour satisfaire à la conformité. Donc je pense que ceux qui vont vers le bug bounty sont justement ceux qui veulent véritablement la sécurisation de leur application et pas du tout ceux qui ont besoin d'un audit de sécurité à des fins de conformité.
Et donc, ça existe ?
Joker.
Moi, j'ai pas une très bonne connaissance du marché français, pour être honnête, mais j'ai l'impression que dans les services mis en ligne, il y a quand même énormément de choses développées par des tiers. Si tu es une entreprise du CAC 40, 90% des logiciels sont développés par des SS2I, enfin, ou des ESN, comme on dit maintenant. Qu'est-ce qui se passe si tu trouves une faille là-dedans et que l'appli, elle est déployée en fait, chez 10 clients différents ?
Mais ça, c'est
j'ai
déjà le cas.
Du mal
en fait,
à voir la mécanique du truc.
C'est déjà le cas. Du coup, l'avantage du bug bounty, c'est qu'on pourrait imaginer que justement, notre client dise, OK, j'ai pris ce logiciel-là, et dans le contrat, en fait, on inclut qu'il y a un bug bounty et que tous les frais liés à ce bug bounty sont pour la société qui a développé, justement.
Mais les contrats, ils sont déjà signés. Enfin, et maintenant, il y a énormément de choses qui sont juste du renouvellement. Est-ce que toi, tu... Est-ce que tu connais des gens qui mettent des clauses de bug bounty dans les contrats qu'ils font signer à leurs développeurs ?
À l'heure actuelle, non, mais on pourrait très bien l'imaginer, puisqu'il y a quelques temps, en fait, on mettait la même chose avec les failles de sécurité, et les failles de sécurité, on les faisait passer comme des bugs critiques, et du coup, qui nécessitaient d'avoir des corrections rapides, etc. Donc, on pourrait très bien imaginer qu'à partir de maintenant, c'est comme le top 10 de l'OASP, hein, avant, dans les contrats, on ne mettait pas ça. Et bien, maintenant, il y a systématiquement une clause qui dit que les développeurs se conformeront, conforme aux bonnes pratiques de l'OASP. L'idée, c'est on pourrait très bien imaginer de faire la même chose, en fait.
Ok. Et donc, aujourd'hui, par contre, tu n'as pas... Enfin, l'état du marché, c'est que il n'y a pas... Enfin, c'est relativement jeune, on va dire.
C'est très jeune, en fait. C'est très innovant. Nous, en fait, on a vraiment développé, comme l'a dit Étienne, cette offre pour répondre aux questions que se posaient certains d'entre eux, et quand je dis certains, c'est vraiment une minorité hein, de nos clients, mais on trouvait la chose intéressante et les questions qu'ils posaient étaient pertinentes. Et encore une fois, ce modèle innovant nous semblait intéressant de tester des choses. Et du coup, c'est très neuf, c'est très nouveau. Il y a plein de problématiques associées à ça, associées au financement, enfin au paiement en fait, qui est un peu particulier, qui ne fonctionne pas dans beaucoup de systèmes, hein, notamment par exemple les marchés publics, c'est on oublie, hein, le bug bounty ça ne fonctionne pas.
Je m'inscris. Alors, c'est un autre sujet, mais je suis obligé de m'inscrire en faux, puisque le secteur public a d'ores et déjà fait des bug bounty. Donc, c'est un autre sujet.
Alors, je passais par l'intermédiaire des plateformes. Hein. Effectivement, ils peuvent le faire par des intermédiaires. En fait, ils peuvent effectivement d'eux-mêmes faire des programmes, mais passer par des intermédiaires et offrir, du coup, payer un service.
Mais ils peuvent aussi faire des choses au résultat, hein. Ils peuvent aussi payer au résultat le secteur public.
Hein. C'est très compliqué en fait de nos clients qui nous remontent ça, c'est que ils voient pas comment prendre faire les choses. Je dis pas que c'est impossible, mais ça, c'est très compliqué pour eux. Donc eux, du coup, ils le feront pas. Mais on sent que certains sont quand même demandeurs et pourraient souscrire à ce genre de choses. Oui, tout à fait.
Oui, en fait, pour être plus clair dans ma question, suite à votre communiqué de presse, combien de manifestations d'intérêt vous avez eues? Est-ce qu'il y a des retours d'expérience intéressants que vous souhaitez partager, quoi?
Oui, bien sûr. Alors, on l'a lancé le 1er décembre, donc je ne sais pas si c'est effet fin d'année, etc. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu on n'a pas lancé. On a eu quelques sollicitations, mais on n'a pas lancé de programme Bug Bounty.
Après, il y a un autre point pour revenir sur la question de tout à l'heure, sur l'intérêt finalement de prendre quelque chose de tel qu'on le définissait de bug bounty privé fermé qui interrogeait nos clients. Il y a l'aspect psychologique de est-ce que je connais pas la personne, etc. Mais bon, ça, il y en a la plupart qui arrivent quand même à s'en détacher par rapport à ce qu'évoquait Yann tout à l'heure. Il y a surtout l'aspect comment je garantis que. En termes de confidentialité, au-delà des NDA, etc., de la robustesse de la plateforme, toutes les plateformes en général garantissent cette confidentialité. Enfin, cette confidentialité. Il y a un sujet technique sur la robustesse des postes des auditeurs. Comment on garantit l'hygiène, comment on va vérifier l'hygiène SSI du poste et les réflexes de l'auditeur en question. C'est là où nous, de notre point de vue, on va peut-être pas forcément apporter quelque chose de nouveau, j'ai pas la prétention de savoir ce que chaque plateforme va faire, mais en tout cas où on apporte des garanties dont on est vraiment sûr de notre côté, sur lesquelles on peut s'engager avec notre certification sur l'ensemble de l'offre certification SMSI, où on va maîtriser les postes des auditeurs. On va maîtriser les serveurs sur lesquels ils vont se connecter, la chaîne d'accès Internet, etc. Et je pense que c'est aussi ça, qui vient rassurer nos clients sur cet aspect-là. Mais effectivement, en contrepartie, ça veut dire qu'on les prive, par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, je te rejoins, de la diversité de tous les auditeurs, de tous les chasseurs de failles potentielles de la planète. Ça, c'est vrai, on ne peut pas rivaliser. Et c'est pour ça que pour nous, on est quelque chose de complémentaire, mais pas du tout de concurrent. En fait, ça dépend vraiment des besoins et des attentes de chacun des clients, quoi.
Je peux faire un petit retour éventuellement, ouais, sauf si Nico, tu voulais poser une question.
Non, je voulais juste troller en disant une prestation de Bug Bounty peut-elle être passée, mais bon.
Ça va être compliqué.
Ouais.
Ça va être compliqué. Non, peut-être un petit retour sur Bounty Factory. Ils en sont à 1000 vulnérabilités, hein, qui ont été identifiées, 1000 vulnérabilités uniques qui ont été identifiées par le programme. Alors Bounty Factory fonctionne sur deux modes. Hein. Il y a un mode complètement public. Il y a un mode effectivement semi-privé où les bons chasseurs ou les chasseurs avec une certaine réputation donc se voient gratifiés de programmes pour eux en exclusivité avant qu'ils passent public, hein, on va dire une première passe. Et puis il y a un mode managé où il y a trois entreprises spécialistes de la sécurité, hein, qui en fait font l'intermédiaire réellement entre les chasseurs de vulnérabilité et le client.
Tu peux les citer, Renaud, ça informe le public.
Oui, dont la mienne notamment, et puis des concurrents. Mais en fait, il y a trois sociétés partenaires qui fonctionnent donc en bug bounty, ce qu'on appelle managé, où un des partenaires d'ailleurs, parce que le client le choisit, joue l'intermédiaire en fait et dédoublonne hein, automatiquement les vulnérabilités, les qualifie en termes de criticité, de risque, et puis enlève les faux positifs. Donc du coup, le client ne reçoit qu'un exemplaire de rapport de vulnérabilité par vulnérabilité, et tout le travail en fait administratif de paperasse, de communication avec les chasseurs de failles, en fait c'est l'intermédiaire qui le gère. Du coup, le client ne se concentre que sur l'essentiel, on va dire, des remontées, et que sur le contenu des remontées et pas sur leur forme, par exemple. Voilà, et donc c'est un modèle qui fonctionne malgré les craintes qu'il pouvait d'ailleurs y avoir sur la confidentialité, parce que là il y a quand même un incentive financier, et je pense qu'il est quand même intéressant d'avoir un incentive financier pour inciter les chasseurs à remonter, à avoir une prime plutôt qu'à garder la faille ou à essayer de la revendre au marché noir. Je suis convaincu que c'est compliqué de la revendre au marché noir. Hein. À mon avis, c'est pas quelque chose qui est probable. Mais en tout cas, le modèle de bug bounty fonctionne. Après, il faut, je pense, faire attention à ce que les clients comprennent bien que c'est complémentaire. Et là, c'est en ça que je rejoins quand même aussi mes concurrents. Un programme de bug bounty ne fait pas le travail complètement. Et ça remplace pas un audit, ça remplace pas un test d'intrusion fait par des professionnels en un temps limité. Je pense que c'est tout à fait complémentaire, et pour moi ça s'inscrit plus dans la durée et après un audit réel. Donc on fait un audit, on a une vision à un moment donné de la sécurité d'un système, et après effectivement pour les vulnérabilités résiduelles, ça peut être pas mal d'opter pour une formule de bug bounty. C'est assez complémentaire.
Ça me semble être une bonne conclusion. Nicolas, tu voulais rajouter quelque chose ?
Non, mais j'allais dire qu'on en avait déjà abondamment parlé dans l'émission sur le bug bounty, en particulier sur les problèmes de périmètre. Voilà. Donc, effectivement, c'est une bonne conclusion.
Et donc, il faut réécouter la précédente émission sur le bug bounty.
C'est une bonne idée. Etienne, Yann, pour conclure, peut-être le mot de la fin ?
Bah écoute, avec plaisir. Non, concrètement, nous on est ravis à l'heure actuelle de pouvoir tenter l'aventure Bug Bounty. On est en phase de bêta test, on va dire. On verra ce que ça donne. C'est clairement, pour rebondir sur ce que disait Renaud, du complémentaire et en comparable avec des audits de sécurité et même des tests d'intrusion traditionnels. Pour autant, ça apporte des réponses que ces prestations ne savent pas apporter, notamment sur le paiement à la faille, qui présente des avantages qu'on a pu aborder, et puis on verra ce que tout ça donne sur le marché français européen dans les mois et années qui viennent.
Bon, et bien un grand merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.